Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, dans cette époque d'apostasie universelle, il nous est très utile de regarder, de jeter un regard vers les saints qui ont particulièrement brillé par leur vertu de foi. Et justement, dans deux jours, le 5 mai, la Sainte Église honore et nous fait contempler Saint Pie V, l'un de ses plus grands papes, l'un des plus grands défenseurs de la foi. À cause du relâchement presque universel de la chrétienté au début du XVIe siècle, avait éclaté la révolte protestante, terrible. Elle s'était répandue comme une traînée de poudre, arrachant de la chrétienté des pans entiers, des nations entières. Et pour comble de malheur, les Turcs s'apprêtaient à livrer une guerre qui devait être décisive. Mais la Providence veillait. Elle rassembla dans la ville de Trente ce qui devait être le plus grand concile de tous les temps. Là, assistés du Saint-Esprit, les évêques du monde entier se réunissent et ils opposent à la révolte protestante l'immortel monument de la foi catholique avec toutes ses définitions dogmatiques. Et surtout, pour remédier à ce relâchement dans l'Église, ils posent toute une série de lois extrêmement sages pour présider à cette réforme, selon leurs propres termes, in capite est une membris, nous pourrions dire, de la tête aux pieds. Et en effet, l'Église en avait bien besoin. Le vénérable Barthélemy des Martyrs, un évêque dominicain, que Saint Pie V regardait comme un saint, avait cru devoir dire au Concile que, je cite, les éminentissimes cardinaux avait besoin d'une éminentissime réforme. Cela veut tout dire. Mais surtout, la Providence a suscité l'homme de la réforme, parce que édicter de bonnes lois est une chose, les faire appliquer en est une autre. Il fallait pour cela un saint capable de s'opposer à bien des connivences avec l'erreur, à bien des connivences avec la chair, avec le démon. Et cet homme, ce fut Saint Pie V. Sa vie peut s'articuler autour de deux axes principaux, l'enseignement de la foi et sa défense. Tout d'abord, Saint Pie V fut un modèle dans l'enseignement de la foi. En 1904, naissait Michel Ghilieri, c'était là son nom, dans un petit village d'Italie nommé Bosco. Et à 14 ans, il rentra dans l'ordre des frères prêcheurs. Là, à la suite de Saint Dominique, son père, selon l'ordre, il se consacre tout entier à l'enseignement et à la défense de la foi, de la vérité sacrée. Cette vérité qui sauve les âmes, il l'aima de tout son cœur, il l'aima passionnément. Il s'appliqua dès lors à l'étude avec l'ardeur que lui suggérait son tempérament de feu. Mais surtout, il avait compris que cette vérité toute surnaturelle ne peut être comprise qu'à la lumière du Saint-Esprit, qu'elle ne peut être enseignée aux âmes que si on la possède soi-même, si on l'aime de tout son cœur et si on l'applique dans sa vie. Et alors, le frère Michel consacrait de longues heures supplémentaires à la prière pour obtenir les lumières du Saint-Esprit, afin de comprendre ce qu'il étudiait. et il fit si bien qu'à l'âge de 22 ans seulement, il était déjà nommé professeur de philosophie. Devenu pape en 1566, il mit tout son zèle, tout son soin à assurer l'enseignement de la foi à tous les fidèles de l'Église. Il voyait dans l'ignorance religieuse l'une des premières causes de la damnation des âmes. Et c'est pourquoi il donna une si puissante impulsion à l'enseignement de la foi. À l'égard des évêques, c'est une multitude de lettres les exhortant à s'acquitter avec zèle de leur fonction de pasteur des âmes et aussi à instituer des séminaires pour obtenir un clergé digne de ce nom. Il encourage les évêques fidèles et il les défend dans toutes leurs difficultés efficacement. Quant aux évêques qui se montrent négligents, il n'hésite pas à les reprendre sévèrement, même lorsqu'ils font partie de la plus haute noblesse. C'est ainsi qu'en France, par exemple, il n'hésita pas à destituer 7 évêques qui se montraient favorable à l'hérésie protestante. Et cela malgré toutes les oppositions de la cour de France, parce que ces évêques souvent étaient nobles. Pour les curés et les prêtres, il fit rédiger, il fit achever un fameux catéchisme, le catéchisme du Concile de Trente. À cette époque, en effet, il manquait cruellement à l'Église un exposé simple et complet de la doctrine de la foi. Et à cause de cela, beaucoup de curés se montraient d'une ignorance, enfin surtout les curés de paroisse, étaient d'une ignorance extrêmement dangereuse pour les âmes, parce qu'ils n'arrivaient pas à bien montrer aux fidèles cette voie du ciel qu'ils connaissaient si mal. Et en même temps, il se montrait bien impuissant à réfuter les erreurs protestantes. Et c'est à cause de cela, entre autres, que cette hérésie s'est répandue si facilement. De cette manière, donc, Saint-Pie V a réussi à contribuer énormément à la restauration religieuse. Et si on regarde de notre côté, eh bien, hélas, le mal de l'erreur fait bien plus de ravages qu'au temps de Saint-Pie V. À nous donc de prendre les mêmes remèdes. Monseigneur Lefebvre, d'ailleurs, encourageait régulièrement les fidèles à lire, à étudier ce catéchisme du Concile de Trente. Tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, dit Saint Paul. Chers frères, et aussi, chers fidèles qui m'écouteraient grâce aux facilités offertes par les moyens modernes, n'avez-vous pas l'occasion de faire profiter ce confinement au bien de vos âmes? Profitez un peu du temps qui vous est laissé pour étudier un peu davantage chaque jour la doctrine catholique. Quoi de plus normal, en effet? Nous nous offensons, dit Saint Jean Chrysostome, quand quelqu'un n'écoute pas ce qu'on dit, quelque inutile que soient d'ailleurs nos propos, et Dieu demeurerait indifférent lorsque nous ne nous intéressons pas aux grandes vérités qu'il nous annonce. Oui, cette révélation, Dieu nous l'a donnée pour nous sauver. Il faut s'y intéresser, il faut l'étudier, il faut la connaître, et la connaître bien. D'autant plus qu'elle est tellement attaquée aujourd'hui. C'est tellement nécessaire parce que une maladie bien plus dangereuse que le virus circule, celui de l'erreur, celui d'une hérésie générale. Saint-Pierre V se montra aussi un inébranlable défenseur de l'enseignement de la foi. À quoi sert-il, en effet, au pasteur de mener ses brebis au meilleur pâturage s'il laisse la bergerie ouverte aux loups? À quoi peut-il bien servir de répandre à pleine main la saine doctrine si on laisse les hérétiques tromper les âmes et les conduire à l'enfer? Cette défense de la foi est peut-être même le caractère propre de Saint-Pie V au milieu du cortège glorieux des saints. Quand il s'agissait d'attaques contre sa personne, Saint-Pie V pardonnait avec la plus grande facilité. On disait même dans son entourage que la meilleure manière d'obtenir sa faveur était de se montrer désagréable avec lui. Mais lorsqu'il s'agissait de la foi, lorsqu'il s'agissait du salut des âmes, il était inébranlable. Rien ne pouvait l'arrêter. Ni les menaces, ni les flatteries, ni les conseils d'une fausse prudence, d'une prudence lâche qui ne conseille que la modération, ni non plus les périls de mort. Par exemple, il mit tout en œuvre pour former une sainte union de prière et d'armes contre les ennemis de la foi. C'est ainsi qu'il joua un rôle actif dans les victoires de Lépante contre les Turcs et aussi en France lors des guerres de religion. Il fut assez efficace pour aider à la victoire de Moncontour contre les protestants. Mais un épisode montre peut-être mieux son zèle pour la foi. C'était en 1549, avant donc qu'il ne devienne pape. Inquisiteur depuis déjà 6 ans, il avait réussi à monter un efficace réseau d'informations. Grâce à ses collaborateurs, il apprend un jour, ce jour-là, que 12 ballots de livres hérétiques avaient été entreposés dans la ville de Côme, au nord de l'Italie. Aussitôt, il s'élance sur les lieux afin d'arrêter le mal avant que les livres ne soient répandus et ne puissent nuire aux âmes. Hélas, lorsqu'il arrive sur place, il se rend compte que le danger était bien plus grand que ce qu'il ne croyait tout d'abord. En effet, ce n'est pas un simple marchand, c'est tout le chapitre, tous les chanoines de la ville, c'est-à-dire tout le haut clergé, qui s'oppose à lui, qui veut l'empêcher de saisir les livres hérétiques. Le frère Michel met tout en œuvre pour détourner ces chanoines de leur projet. Sacrilège, mais rien n'y fait. Le frère Michel ne craint pas l'opposition. Céder, ce serait mettre les fidèles de la ville en grand danger d'être pervertis par ces prêtres indignes. Aussi, courageusement, il fulmine contre tout le chapitre d'excommunication. Les conséquences ne se font pas attendre. C'est clair, remue ciel et terre pour lui faire payer sa fermeté. Il le présente comme un perturbateur public devant le peuple, devant les seigneurs. Il le calomnie même devant le gouverneur de la région. Le frère inquisiteur est chassé de la ville à coups de pierre. Il est menacé de mort et le gouverneur le cite à comparaître devant son tribunal à Milan, la ville voisine, pour le lendemain matin. Le saint est bien résolu d'aller y défendre la cause de Dieu à ce tribunal. Mais il apprend que les hérétiques ont dressé sur le chemin une embuscade, sur ce même chemin où, quelques décennies auparavant, Saint-Pierre martyr a été mis à mort. Qu'à cela ne tienne. Le frère Michel adresse une ardente prière à Dieu. Et le soir même, il part pour pouvoir faire un long détour. Toute la nuit, il marche, il parcourt 50 kilomètres et le lendemain matin, à l'heure due, il fait irruption devant le gouverneur. Il est prêt. Le gouverneur ne lui adresse même pas un mot et il se retire en colère. Il lui fait dire par un de ses serviteurs qu'il voudrait bien le jeter en prison. Homme d'action, le frère Michel, voyant qu'il n'y a rien à attendre de ce côté, du côté du gouverneur, part aussitôt pour Rome, afin de trouver auprès du pape l'appui dont il a besoin pour empêcher ce scandale. Il part aussitôt et il arrive à destination à Rome un soir, mort de fatigue. Heureusement, son activité n'aura pas été inutile. Sa résolution finit par vaincre tous les obstacles, les hérétiques sont écartés et le scandale réprimé. Quel zèle et quel exemple! Oui, quel exemple, car nous aussi, nous avons à mener une guerre contre les envahissements de l'erreur. Par l'écran, les ennemis de Dieu cherchent à faire pénétrer leurs erreurs jusque dans les maisons. Tantôt, ce sont des attaques directes, des calomnies, des accusations contre l'Église. Souvent, des scènes immorales. Et, ce qui est peut-être plus dangereux encore, toujours, c'est un esprit malsain, l'esprit du monde qui met tout son plaisir, qui met dans le plaisir tout le but de sa vie. Si on ne prend pas des moyens efficaces contre ce mal, eh bien, nous courons de graves dangers, de graves périls. Bien sûr, ce combat est exigeant. D'ailleurs, quel combat n'est pas difficile? Les plaintes s'élèvent dans la maison, il faut s'ingénier pour trouver des activités pour occuper le temps. La tentation est forte de s'offrir un plaisir facile et avec le respect humain, beaucoup parmi les fidèles peuvent craindre de passer pour un idiot s'ils ne connaissent pas le dernier film qui occupe toutes les conversations. Et c'est ici que nous devons nous rappeler ces paroles de notre Seigneur. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Non, je suis venu apporter le glaive. Oui, la vie chrétienne est une guerre contre soi-même, contre le monde, contre le démon. Prions donc Saint Pie V afin qu'il nous rappelle que nous sommes les membres mystiques du crucifié et qu'il nous inspire sa fermeté. On ne peut cependant pas terminer un sermon sur Saint Pie V sans parler d'une œuvre qui fut le couronnement de sa vie. Lex orandi, lex credendi. La loi de notre prière est la loi de notre foi. Il restait au glorieux athlète de protéger pour la suite des siècles l'expression la plus haute de notre foi, celle de la prière publique, celle du Saint-Sacrifice de la messe. Saint Pie V confia la restauration et la codification du missel romain, quelque peu altéré par les fantaisies de la Renaissance, à trois de ses plus fidèles auxiliaires, dominicains comme lui. Par sa bulle pontificale Quo Primum, il confirma cette œuvre de restauration, et tout en conservant les variantes réellement traditionnelles, telles que le rite dominicain, il imposa ce missel à toute la chrétienté d'Occident. Que Notre-Dame, gardienne de la foi, nous donne de rester toujours fidèles à son œuvre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi.